Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
Samedi soir sur la Terre et sur l'ensemble du réseau des radios partenaires du studio IAFA, vous écoutez Faso IAFA, l'émission au cœur de nos préoccupations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La saison des pluies passée a mis à l'épreuve de nombreuses familles à Banfora, particulièrement celle du secteur 3, où plusieurs ont perdu leurs maisons et biens à cause des inondations. Cependant, malgré cette catastrophe, ces familles font preuve de résilience. Comment se sont elles adaptées et quelles solutions ont-elles trouvées pour se reconstruire? C'est ce que nous découvrirons dans le reportage de la semaine. Mais comment s'adapter aux zones inondables et éviter de tels désastres à l'avenir? C'est la question à laquelle répondent Momo et Nafou dans le sketch de la semaine où ils échangent sur des solutions pratiques pour protéger leurs biens. Attention, les inondations représentent un défi majeur pour la santé publique, affirme le docteur Karim Kambasré, spécialiste en santé communautaire. Il nous livrera ses précieux conseils pour prévenir les risques sanitaires post-inondation et protéger les plus vulnérables. Voici quelques-uns des sujets que nous aborderons dans ce magazine. Merci de nous accompagner tout au long de cette émission. Je suis Aimé Roland Ouidraogo. La saison des pluies passées a été éprouvante pour certains déplacés de Banfora, notamment ceux vivant au secteur numéro 3 de la ville. Après avoir acquis des parcelles à leur arrivée dans une zone qui s'est malheureusement révélée inondable, ils ont tout perdu et ont dû encore recommencer à zéro, un calvaire qu'ils racontent dans ce reportage de Nelly Tapsoba.
Debout au milieu de sa concession, le vieux Mahamadou Diallo nous montre les dégâts causés par les eaux au cours de la saison pluvieuse passée.
Quand la pluie a commencé, l'eau s'est infiltrée dans les maisons et les a fait tomber. Là où il y a des bâches, c'était des maisonnettes. Tout a été détruit. Deux maisons sont tombées ici, une troisième là. Cette maison a été endommagée, mais ce n'est pas tombé. L'eau a emporté nos papiers, des actes de naissance. Certains de mes enfants sont élèves, leurs cahiers ont été emportés. Nos provisions ont également été emportées, du maïs, du riz. Ce que nous avons pu sauver était mouillé. Nous l'avons étalé pendant des jours afin de le sécher.
Installé à Banfora avec sa famille depuis bientôt 2 ans, Mahamadou Diallo ignorait que la parcelle de terre située au secteur 3 de la ville de Banfora, acquise avec ses économies, était en fait située dans une zone inondable.
Nous ne connaissons pas cette zone. Quand nous sommes arrivés, on nous a proposé la parcelle et nous avons accepté. Je venais d'arriver, ma famille est nombreuse, difficile d'aller en location, raison pour laquelle je n'ai pas hésité quand on me l'a proposé. Je n'ai pas acheté la parcelle auprès de la mairie. Je n'ai aucun document. Si tu es dans une situation difficile et que quelqu'un te propose de t'aider, tu lui fais confiance. C'est ce qui m'a conduit dans ce problème.
À quelques mètres de là, Amadou Diko, lui, a tout perdu dans ces inondations. L'eau a complètement détruit la maisonnette qui lui servait d'habitation. Le jeune conducteur de tricycle est aujourd'hui installé dans une tente avec sa famille, une situation qu'il espère temporaire.
On a trouvé refuge ici et les premières pluies sont tombées. Quand il pleuvait, l'eau de pluie atteignait nos genoux. Puis, un jour, il y a eu une grande pluie. Il y avait tellement d'eau que ça atteignait nos poitrines. Nos maisons sont tombées, on a dû aller louer des maisons et on a prévenu l'action sociale. Une semaine après, la Croix-Rouge est venue nous enregistrer avant de venir fixer des tentes pour nous. Et depuis, c'est sous cette tente que nous nous sommes abrités jusqu'à la fin des pluies. Aujourd'hui, encore, nous y sommes.
En attendant d'avoir de meilleures conditions, Mahamadou et son voisin Amadou essaient de renforcer au maximum leurs habitations en vue de la prochaine saison pluvieuse.
Momo et Nafou.
Comment s'adapter aux inondations? Nous suivons une conversation entre Momo et Nafou, deux habitants confrontés à ce défi. Découvrez des solutions pratiques pour protéger vos biens et éviter les désastres liés aux inondations.
Bonjour Nafou.
Bonjour Momo. Tu viens m'aider?
Qu'est-ce que tu fais comme ça là?
Je prends mes précautions pour ne plus vivre les horreurs des inondations, Momo.
Voilà pourquoi on vous dit de toujours avoir l'avis de la mairie avant d'acter un terrain.
Si tu étais passé par la mairie, tu allais savoir que la zone est inondable et qu'il ne faut pas l'acheter. Voilà.
Tu as raison. Mais étant donné que nous sommes déjà installés, Momo, il faut bien qu'on prenne des précautions en attendant de trouver un autre terrain, non?
Ah, Nafou, toi aussi, tu te fatigues pour rien. De toute façon, la zone est inondable. On ne peut pas vivre.
Momo, c'est pas drôle. Hein? L'année passée, combien de familles ont tout perdu ici? Toi-même, tu étais le premier à pleurer, non?
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est coincé ici. Tu crois que si j'avais le choix, je vivrais dans une zone inondable?
Je sais, Momo. Ce n'est pas facile. Mais même si on ne peut pas partir pour l'instant, il y a des choses qu'on peut faire pour limiter les dégâts, par exemple.
Quoi, par exemple? Construire une pirogue?
Pas une pirogue, Momo, mais des abris plus sûrs. Écoute, Momo, on peut élever les fondations des abris avec des sacs de sable ou des pierres. On peut creuser des canaux de drainage autour pour diriger l'eau ailleurs. Stocker nos affaires importantes dans des contenants étanches ou en hauteur, Momo. Voilà ce qu'on peut faire.
Ah, madame, ça a l'air de demander beaucoup de travail. Et si cette année, les inondations ne viennent même pas?
Momo, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Tu sais bien que cette zone est déclarée inondable. Il faut arrêter d'attendre que les autorités fassent tout pour nous, Momo. Fou bien.
Oui, mais Nafou, on a besoin de moyens pour faire tout ça. Avec quoi on va élever les fondations là?
Justement, Momo, on peut organiser une réunion. Chacun peut contribuer un peu. Des sacs vides, des outils, de la main d'œuvre. Et moi, je peux demander aux ONG qui nous aident de nous fournir des matériaux supplémentaires.
Une réunion?
Oui.
Tu crois que les gens vont écouter?
Ils écouteront si tu les motives, Momo. Tout le monde sait que tu as une grande bouche, mais aussi un grand cœur. Si toi, tu t'impliques, les autres suivront naturellement, Momo.
Bon, écoute, tu as gagné comme d'habitude. Je vais t'aider à organiser ça. Mais permets-moi d'insister sur ce point à la population. Avant même d'acheter un terrain, il faut toujours demander à la mairie si la zone est inondable ou pas. C'est une précaution essentielle.
C'est compris, chef.
Kibar utile.
Dans cette édition, nous avons le privilège d'accueillir Yacouba Guébré. Il est le coordonnateur chargé de la préparation et de la réponse à la catastrophe à la Croix-Rouge. Dans cet entretien réalisé par Nelly Tapsoba, il nous dit quelles dispositions prendre quand on vit dans une zone dite inondable et comment réagir en cas d'inondation.
Monsieur Guébré, dites-nous, qu'appelle-t-on zone inondable? À partir de quel moment on peut dire qu'une zone est inondable?
Merci. Il faut dire qu'une inondation, c'est un phénomène naturel qui peut également être provoqué par l'homme et au cours duquel une importante quantité d'eau recouvre une zone habituellement sèche. Et cela engendre naturellement des dégâts importants donc, sur le plan humain et matériel. Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent donc de déterminer les zones à risque d'inondation. La proximité donc de la zone par rapport à un cours d'eau. Donc lorsque il y a débordement, l'eau naturellement peut occasionner donc des dégâts au niveau de cette localité. Le deuxième facteur, c'est l'urbanisme, le système de drainage des eaux. Lorsque l'urbanisation est mal contrôlée, on peut justement se retrouver avec une forte concentration donc d'habitations dans une zone. Et lorsqu'il y a des fortes précipitations, cela peut également causer des dégâts. Et enfin, on peut également prendre en compte la précarité donc des habitats. Il faut dire par rapport à ça, il y a également des études qui nous permettent, à travers la combinaison donc de ces différents facteurs-là, de pouvoir déterminer les zones à risque.
Prenons le cas des gens qui habitent dans ces zones dites inondables. Quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre?
Le premier conseil en fait qu'on va donner, c'est de respecter donc les instructions qui sont édictées par les autorités. Une fois qu'on a identifié les zones à risque d'inondation, généralement il y a un certain nombre de conseils qui suivent. Ça peut être donc des conseils par rapport à la relocalisation donc, de ces populations-là vers des zones moins exposées. Le respect des distances de sécurité proposées donc par les autorités. Quand on vit dans une zone à risque, il faut faire l'effort de s'informer le plus régulièrement possible sur les alertes hydrométéorologiques. Il faut également travailler à renforcer les habitations. Et là, ce qui est recommandé pour les communautés qui vivent dans ces zones-là, c'est de travailler donc à renforcer les fondations donc des maisons, mais aussi construire donc les maisons avec des matériaux plus résistants aux inondations. Surtout d'éviter donc de stocker des biens précieux, d'importants donc stocks de vivres pendant la période hivernale où il risque d'avoir une montée des eaux dans les cours d'eau. L'installation donc des barrières anti-inondation, voilà, comme les sacs de sable pour protéger soit les champs, soit et les habitations. Un dernier conseil qu'on peut donner, c'est surtout pour les gens qui sont dans ces zones, c'est de toujours avoir un kit d'urgence avec soi au cas où il y aurait une probable en fait évacuation donc des communautés suite à ces inondations. Donc c'est juste un kit où on a un minimum de matériel qui peut nous permettre donc de pouvoir survivre pendant une certaine période si toutefois il y a donc des inondations et qu'on est amené à évacuer donc les communautés donc sur d'autres sites.
Et dans le cas où on n'a pas eu le temps de se préparer ou on fait face à une inondation, quels sont les bons gestes à avoir?
Quand on est surpris donc par des inondations, ce qu'il faut faire premièrement, c'est de garder son calme et surtout penser à protéger sa vie et également celle de sa famille. La première des choses, il faut s'informer quotidiennement. L'information est assez capitale. Puisqu'il se pourrait qu'il y ait de nouvelles inondations, il y a aussi des instructions qui peuvent être données par les autorités. Il faut également donc respecter toutes les instructions qui seront données par les autorités locales. Il faut aussi contribuer à aider les personnes vulnérables, telles que voilà, les personnes vivant avec handicap ou voilà, les personnes âgées. Également, il ne faut jamais marcher donc, dans une eau montante. Souvent, ces eaux-là peuvent cacher donc, des dangers, voilà, tels que des courants forts ou des objets dangereux, voilà, tels que voilà, les câbles électriques. Il faut également éviter de conduire pendant cette période. Trouver en tout cas un endroit élevé ou voilà, se mettre à l'abri. Une mesure aussi importante, c'est de couper voilà, les sources d'électricité. Préconise également de fermer les portes et les fenêtres pour limiter donc, l'infiltration donc, de l'eau dans les maisons. Et il faut également chercher un abri sûr. Il n'est pas conseillé, par exemple, de se réfugier sous un arbre ou en tout cas un abri dont on n'est pas sûr de la résistance. On peut également faire recours aux services donc, de secours, voilà, tels que les sapeurs-pompiers. On peut les appeler et ils pourront nous apporter assistance. Merci.
La fille qui bat.
Dans la rubrique La fille qui barre, nous abordons le sujet sur les inondations qui représentent un risque majeur pour la santé des populations. Et pour en parler, nous recevons avec plaisir Dr Karim Kambasri, spécialiste en santé communautaire, et qui va partager ses conseils et son expertise pour nous éclairer. Docteur, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Comment merci. Vous allez?
Ça va bien et vous?
Bien, merci. Dites-nous quels sont les principaux risques sanitaires auxquels les personnes sont exposées après une inondation?
Je voudrais, pour cette question, dire que les risques sont assez nombreuses. Essentiellement, on peut retrouver les maladies diarrhéiques telles que le choléra, la typhoïde, certaines maladies comme les hépatites A et tout ça. Ensuite, vous avez les questions d'infections respiratoires. Les infections respiratoires avec l'humidité qui peut favoriser la propagation des maladies telles que la pneumonie, la grippe et tout ça. Ensuite, vous avez les maladies à transmission vectorielle. Vectorielle, c'est par exemple le paludisme, la dengue et puis les chikungunya qui peuvent être des facteurs d'épidémie parce que les zones où il y a l'inondation peuvent être des zones d'éclosion d'épidémie. On a aussi le problème de déshydratation. La déshydratation, c'est lié au manque d'accès à l'eau, aux questions de stockage et tout ça, dont on parle souvent, parce qu'il y a l'eau qui sera contaminée. Ensuite, vous avez les questions d'infection cutanée qui peuvent, à l'issue de la transmission des microbes et tout ça, entraîner des plaies, des infections cutanées. Et peut-être pour terminer, la question des inondations peut entraîner aussi la malnutrition. Pourquoi ? Parce que l'eau va détruire peut-être des récoltes, va détruire les stocks alimentaires et ça va augmenter le risque de malnutrition sur ces personnes-là.
Certaines catégories de population sont particulièrement vulnérables lors des inondations, comme les enfants, les personnes âgées ou les personnes ayant des maladies chroniques. Quels sont les risques spécifiques pour ces groupes ?
Pour ces groupes vulnérables, effectivement, lors des inondations, ce sont des personnes à risque. Mais pour ce qui est des enfants, lors des inondations, il y a beaucoup plus de lits de noyade. Ensuite, les maladies hydriques, comme je disais, les diarrhées, les cholérés et tout ça. Ensuite, on a des traumatismes psychologiques que les enfants peuvent avoir parce que le stress est quand même important pour ces enfants-là. Peut-être pour la deuxième catégorie des personnes âgées. Vous savez, les personnes âgées auront une mobilité assez réduite pendant les inondations. Voilà, ils peuvent avoir des difficultés pour se déplacer rapidement. Ensuite, il y a les maladies respiratoires. Les maladies respiratoires avec l'humidité, comme j'ai dit, il y a les maladies respiratoires comme l'asthme, la bronchite qui peuvent se déclencher, tout ça. Il y a la question d'isolement des personnes âgées. Les personnes âgées vivent souvent seules ou bien ils peuvent être laissés à eux-mêmes et du coup, ça peut créer des traumatismes psychologiques à ces personnes-là. Maintenant, pour terminer, les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, la question d'inondation peut entraîner une perturbation de l'accès aux soins, au système de santé. Donc, ça peut déjà exacerber les maladies qu'ils ont déjà et l'accessibilité aux médicaments. Il y a la question des infections qui peut, telles que les personnes ayant des maladies chroniques, comme le diabète par exemple, peuvent avoir ou développer des infections. On n'exclut pas aussi la question du stress et de l'anxiété comme trouble psychologique pour les personnes ayant des maladies chroniques.
En cas d'inondation, pour limiter la propagation des maladies, quelles sont les premières mesures de santé publique à mettre en place dans l'immédiat?
Dans l'immédiat, pour les questions de santé publique, il faut assurer l'accès à l'eau potable. Ça, c'est quand même capital. Il faut évacuer les eaux stagnantes parce que ces eaux stagnantes peuvent entraîner une multiplication des germes et des maladies infectieuses et tout ça. Et il faut fournir des abris sûrs aux populations. C'est-à-dire les permettre de se reloger parce que souvent il y a une destruction de leurs abris, de leurs maisons et tout ça. Il faut renforcer la surveillance épidémiologique. La surveillance épidémiologique ici, c'est de pouvoir détecter rapidement les cas d'épidémie qui peuvent commencer, tels que le choléra et les maladies transmissibles. Et enfin, sensibiliser la population, c'est de les informer à prévenir les maladies, à respecter les mesures d'hygiène et à consommer suffisamment d'eau potable et éviter les eaux contaminés.
Avant de se quitter, docteur, en tant que spécialiste en santé communautaire, quel message souhaitez-vous transmettre aux communautés exposées aux risques sanitaires liés aux inondations?
Ce que je peux dire, c'est de dire aux communautés qui sont affectées de faire en sorte de s'assurer d'avoir accès à de l'eau potable pour assurer la continuité des soins, de l'alimentation, maintenir une bonne hygiène, ça c'est important. Et éviter les eaux stagnantes, aller se baigner là-bas et ainsi de suite. Et se protéger des infections. Se protéger des infections et surveiller, que ce soit au niveau de la communauté ou de façon personnelle, le début de certaines maladies qui peuvent être des signes d'alerte pour développer des épidémies ou ainsi de suite. Et peut-être pour terminer, c'est de se soutenir mutuellement parce que ce sont des moments de difficulté. Ce sont des moments où nous avons besoin d'être ensemble pour éviter de tomber ensemble.
Et c'est sur cet appel de soutien mutuel que nous allons mettre fin à notre entretien. Merci infiniment, Dr Karim Kombassere, pour ces précieux conseils.
Merci à vous.
La commune de Yako, avec l'appui de deux de ses partenaires que sont le programme communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel et le PNUD, a offert des opportunités d'emploi à des déplacés internes, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui mobilisent près de 600 personnes, dont plus de la moitié sont des déplacés. Ces projets temporaires visent à renforcer la cohésion sociale et à permettre aux populations déplacées d'obtenir de quoi leur permettre de lancer des activités génératrices de revenus. Plus de détails avec Micheline Guigma.
Casque sur la tête, bottes aux pieds et gants enfilés, les gilets jaunes de Yako, armés de leurs balais, râteaux, coupe-coupe et autres matériels de nettoyage, sont en pleine activité. Aujourd'hui, les soldats de la salubrité ont pris d'assaut la cour de la CNSS située au secteur 3 de Yako. Herbes, sachets plastiques ou autres déchets, rien ne leur résista. Saïdou Zida est le superviseur de l'équipe en activité ici.
Notre travail, c'est d'assurer la propreté de la ville, que toute personne qui arrive dans la ville de Yako sache qu'il y a un travail qui est fait. Dans les services où il y a des herbes, on désherbe. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas rencontré de grandes difficultés.
L'équipe de Saïdou Zida est forte de 28 membres. Mais en tout, ce sont 278 personnes qui participent à ces travaux d'assainissement de la ville de Yako, dont 70% sont des déplacés internes. Originaire de Kelbo, Mariam Sawadgo est la représentante des personnes déplacées internes. Elle a eu la chance d'être retenue pour participer aux travaux.
Nous faisons le nettoyage dans les hôpitaux, les écoles, les services. Et d'ici là, nous comptons aller au marché. Et partout où il y a le besoin, nous allons aller.
Les participants ont été sélectionnés par tirage au sort après dépôt de dossier. Quant aux travaux en question, ils entrent dans le cadre de l'activité de mise en œuvre du projet d'assainissement de la ville financé par le programme de croissance, de relèvement et de stabilisation du Sahel est réalisé par la mairie de Yako, explique Boukari Zomodo, président de la délégation spéciale de Yako.
Dans les critères, c'est nous qui avons élaboré les TDR. Vous voyez que c'est en vue de l'élèvement et de la stabilisation des zones qui sont fortement touchées par le défi sécuritaire. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté les zones de confort. Il y en a qui sont venus presque rien. Donc, pour les permettre, en tout cas, à la majorité, d'avoir un revenu. C'est pour ça qu'on a mis le pourcentage à 70% pour les personnes déplacées internes. Et bon, ça, puisqu'on ne peut pas les aider, et puis laisser les, ceux-là qui les ont accueillis. Donc, on a pris 30% au niveau de ceux-là qui les ont accueillis. C'est pour, en même temps, créer une certaine cohésion sociale entre les personnes déplacées internes et les populations hautes.
Renforcer les relations entre populations hautes et déplacées, un objectif a déjà atteint selon les témoignages sur le terrain. Déplacé de Bourzanga, Issa Kanana salue l'idée de les réunir sur un même projet.
En tout cas, le travail est venu renforcer nos relations et nous rapprocher. Avant, on ne se connaissait pas, mais maintenant, on se connaît et on cause bien. Nous remercions les initiateurs du projet d'avoir eu l'idée de nous rassembler et de créer l'entente entre nous. Et quand il y a l'entente, c'est difficile qu'il y ait des querelles.
Au-delà de l'aspect social, ces travaux de haute intensité de main-d'œuvre, même s'ils n'offrent que des emplois temporaires, visent une autonomisation financière des bénéficiaires, complète à le président de la délégation spéciale.
Que chaque travailleur puisse à la fin économiser un montant qui va lui permettre de mener des activités génératrices de revenus. Donc ça veut dire qu'au paiement, il y a un montant qu'on va retenir, la moitié des rétributions destinées à chaque travailleur. Et qu'à la fin maintenant, on va débloquer ça, lui permettre de mener une activité génératrice de revenus.
Les ouvriers temporaires sont payés à 45 000 francs CFA le mois et les travaux sont prévus pour 2 mois. Outre ce projet, un autre de haute intensité de main-d'œuvre se déroule simultanément dans la ville de Yako, toujours sous la direction de la mairie. Il s'agit du projet de stabilisation du Sahel avec la remise en état des pistes dégradées à travers la méthode d'ONU. Financé par le PNUD, il offre des emplois pour 1 mois à 200 personnes, majoritairement des déplacés internes. Elles sont payées à 5 000 francs par jour.
Dans la rubrique Music Live de cette semaine, nous recevons pour vous un artiste, musicien et conteur, Diouffo Traoré. Très tôt initié aux instruments traditionnels, il est auteur, compositeur, chanteur, conteur, joueur et fabricant d'instruments traditionnels tels que la kora, le balafon, la flûte, le dan, le ngoni. Il est également professeur de musique et arrangeur. Diouffo, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Comment vous allez?
Oui, ça va très bien.
D'accord, Dieu merci. Vous avez grandi dans un environnement musical traditionnel. Pouvez-vous nous parler de vos premières expériences avec la musique?
Depuis très tôt, j'ai été initié aux instruments et j'ai eu cet amour depuis le bas âge, c'est-à-dire que quand j'étais au CP1, CP2.
Devons-nous comprendre par là que c'est votre père qui vous a initié?
Papa Konamba, c'est lui qui m'a initié.
Konamba Traoré.
Oui, oui.
Comment avez-vous évolué dans la pratique des instruments traditionnels comme la kora, le balafon ou l'ngoni?
D'abord, c'était le balafon.
Okay.
Parce que quand papa m'apprenait à jouer aux instruments, j'étais attaché au balafon dès le début. Et entre-temps, quand il sortait, il laissait la kora dans sa chambre. Moi, je rentrais, je prenais. Et c'est comme ça que j'ai eu l'amour même de cet instrument-là.
Quelle différence avez-vous ressenti en jouant ces instruments par rapport à la musique moderne?
Bon, je pense que les instruments traditionnels m'inspirent plus parce que je suis né dans cet environnement. Depuis le village, au son des balafons, quand il y a des cérémonies de baptême ou d'initiation, ce sont les balafonistes qui jouaient.
Okay.
Pour animer les soirées, voilà.
Dans vos chansons, vous désirez nous interpréter Kélé Mani.
Kélé Mani.
C'est en langue Djoula.
En Djoula.
Et qu'est-ce que ça veut dire en langue française?
Ça veut dire la guerre n'est pas bonne. Parce que je l'ai composé il y a très longtemps. J'avais composé ça avant que le monde ne soit ainsi. Parce que la guerre, c'est quelque chose, ça nous empêche de réaliser même nos projets. Ça nous empêche d'aller au-delà de ce que nous avons comme inspiration. Quand il y a la guerre, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Mais par contre, j'ai créé ça, c'est pour non seulement dire aux gens, il ne faut pas se faire la guerre, que ce soit dans le monde entier ou dans ton pays, même entre frères et sœurs, même dans la famille, il ne faut pas se faire la guerre.
Quelle est mon idée? Fadon lui, oh, quelle est mon idée? Badon luyo, kele mwanyi ne. Teru luyo, kele mwanyi. Oh ya dabula, kele mwanyi. Kele mwanyi, bada bada bada. Kele mwanyine, oh kele mwanyine, kele mwanyi, oh kele mwanyine. Terulu yo, kele mwanyine, oh fadonlu yo, kele mwanyine, badonlu yo.
Félicitations, Djoufo Traoré. Kélé Mani, la guerre n'est pas bonne. Vous êtes beaucoup rattaché à la culture. Quel rôle joue la musique dans la préservation de la culture traditionnelle?
Tant que gardien de la tradition, en quelque sorte, je peux dire que la musique, c'est un remède plus que les autres remèdes. C'est-à-dire, ça soigne, ça fait oublier les soucis et ça consolide le lien même entre frères et sœurs, entre amis et entre pays.
Merci beaucoup, Djoufé. Nous tirons tout doucement vers la fin de notre entretien. Vous le connaissez, le Burkina Faso traverse une période d'insécurité marquée par des conflits et des tensions. Vous, en tant qu'artiste, quel message avez-vous à l'endroit de ces populations déplacées, mais aussi les populations autres qui les ont accueillies?
D'abord, je tiens à vraiment les encourager de ne pas se décourager. Et ceux qui les ont accueillis là, c'est ça l'intégrité. Parce qu'ils étaient dans une autre zone.
Bien sûr.
Et le fait qu'on les a accueillis, ça déjà, ça leur donne un peu
de joie.
De joie.
Ils se sentent chez eux.
Et nous sommes tous pareils. Il faut qu'ils se disent, on est tous pareils. Nous sommes là pour les soutenir. Il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir.
Merci beaucoup, Djoufé Traoré. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous disons grand merci et que Dieu vous assiste et vous accompagne dans votre carrière musicale.
Amen.
Et que Dieu fasse régner la paix au Burkina Faso.
Amen. Thank you.
Ainsi s'achève cette édition de Faso Yafa. Un grand merci à nos invités et à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Restons solidaires, vigilants et porteurs de paix au sein de nos communautés. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Faso Yafa où l'humanisme est au cœur de nos préoccupations. Prenez soin de vous et à très bientôt.